Voilà, bonjour à vous, tous et toutes. Alors, je vous propose aujourd'hui la suite d'un premier message sur la liberté, centré sur quelques versets de Paul aux Galates. Peut-être que vous n'étiez pas là, et si vous étiez là, est-ce que le micro n'est pas trop fort ? Ça joue ? Il n'y a pas trop de... Ça marche trop bien. Donc alors peut-être qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas là. Et si vous étiez là, vous ne vous en souvenez pas parce que c'était au printemps passé. Et moi, je suis restée avec l'impression que je vous devais encore quelque chose. Et j'ai alors demandé un deuxième temps de parole qui m'a été accordé. Ça devait se faire en novembre passé et reporté finalement à aujourd'hui. Donc moi, je suis ici, mais personne ne m'a demandé ni réclamé quoi que ce soit. Je me suis invitée toute seule pour combler une lacune que je suis peut-être la seule à déplorer. Je vous remercie néanmoins de me recevoir avec un message qui était prêt depuis longtemps, que j'ai congelé et que j'ai réchauffé pour vous ce matin. Pendant le confinement, j'ai fait une longue étude sur la liberté et qui m'a beaucoup apporté, et je suis là pour essayer de vous partager au mieux une partie de cet enrichissement. Ce sera dense parce que moi je pars sur un petit sujet, et après j'ai plein de questions qui viennent, et après je dois élaguer pour arriver à quelque chose qui soit quand même pas trop long. Alors ce sera dense, mais pas touffu, parce que vous aurez toujours un fil rouge, donc je vous rassure. Et je vais vous présenter, comme à chaque fois, un large éventail du sujet. Pourquoi je fais ça ? Pour que chacun puisse être concerné par une petite chose et qu'il pourra la retenir. Le reste, vous pourrez oublier. Et si votre attention baisse en cours de route, pas grave, on se retrouve tous à la fin. Pour ne pas alourdir mon message, je ne vais pas donner les références de tous les versets que je vais citer. Mais je les tiens à votre disposition. Voilà, le point de départ, c'était l'épître aux Galates.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Si vous n'êtes pas familiarisé avec la Bible, ces versets qui parlent de liberté, service, amour, loi vont éveiller votre curiosité parce que ça ne colle pas du tout ensemble à première vue. Et si vous êtes familier avec les Écritures, vous constatez que pratiquement tout l'Évangile est condensé dans ces quelques phrases de Paul. La liberté, je ne vais pas beaucoup y revenir, mais elle va rester en toile de fond. Et j'aimerais juste que vous gardiez à l'esprit que Jésus avait une telle liberté que les personnes qu'il rencontrait passaient avant les traditions, avant les lois, les usages, les clivages sociaux. L'amour des autres se pratique dans la liberté qui lui est indissociable. Les élans de générosité, de compassion, d'entraide, de créativité ont besoin de liberté pour se concrétiser. Si notre liberté n'est pas guidée par l'amour, nous restons centrés sur nous-mêmes et sur nos envies. Et si notre amour se passe de liberté, il se ratatine et peut devenir étouffant pour l'autre. Dans ce deuxième volet, moi je vais m'arrêter sur les bémols que Paul a ajoutés. La liberté, oui, mais demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Je vais juste faire un bref rappel. Qu'est-ce que Paul veut dire par vivre selon la chair ? c'est suivre nos pulsions et nos instincts naturels qui nous habitent. Ils nous poussent à combler nos besoins physiologiques pour assurer notre survie, mais également à rechercher richesse matérielle, domination, pouvoir, gloire personnelle, et ceci au détriment des autres en général. Et là, on n'est plus sur le mode survie. L'homme charnel, naturel, se suffit à lui-même. Il cherche son épanouissement personnel et il sert son propre intérêt. Mais selon Paul, il reste aux prises avec ses instincts qui deviennent aliénants avec le temps et finissent par le dominer. Et c'est ce qu'il appelle esclavage ou servitude. Tant qu'il reste naturel, au sens de Paul, l'être humain est asservi au péché, c'est-à-dire coupé de Dieu, et il n'est pas libre, au sens de Paul, où Paul l'entend. Alors moi, je suis partie avec ces questions. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de rester ferme? Qu'est-ce qui peut nous faire perdre notre liberté et nous remettre sur la case départ? Qu'est-ce qui peut nous motiver, nous pousser à faire un mauvais usage de cette liberté reçue gratuitement? Et je suis rapidement arrivée, vous aussi je pense, sur le thème de la tentation. Et qui dit tentation, dit serpent de la Genèse, là où tout a commencé. Nous allons parler du diable, diabolos, celui qui divise, qui désunit. Il existe beaucoup d'appellations, le Satan, le malin, le prince des démons, le prince des ténèbres, le prince de ce monde, l'esprit du mal, le séducteur, l'adversaire, le père du mensonge, l'accusateur, le tentateur. Ça paraît un petit peu désuet et moyenâgeux de nos jours d'en parler ainsi, mais c'est le langage de la Bible et il faut bien donner un nom à cette source mystérieuse de destruction et de mort qui est constamment opposée à une autre source mystérieuse de vie. D'après la Genèse, la tentation ne vient pas de l'homme créé à l'image de Dieu. Elle vient de l'extérieur, mais il y est visiblement perméable. Dans le Notre Père, on a même « ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous soumet pas à la tentation » et aujourd'hui « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ceci nous fait bien comprendre qu'on aura du fil à retordre ici-bas. La tentation, c'est un sujet peu avenant, pas très agréable, pas très facile non plus, j'en conviens, mais je pense qu'il faut l'aborder de temps à autre. Et bon, je ne sais pas si vous avez de l'intérêt à y entrer ce matin, mais moi j'ai tout fait maintenant pour préparer le terrain et je vous embarque. Alors on va se mettre d'accord sur la définition de la tentation qui est une attirance pour quelque chose d'interdit communautairement. Interdit, ce qui est dit entre nous. Ou quelque chose que l'on s'interdit à soi-même en fonction de nos valeurs, de notre vécu. La tentation vise à nous détourner de notre trajectoire, à remettre en question un choix que l'on a fait. Et sur le plan spirituel chrétien, c'est une incitation au péché. Et le péché est tout ce qui tend à nous séparer de Dieu, que ce soit la rupture, le rejet ou l'altération de notre relation avec lui. La tentation n'est pas péché, elle n'est pas l'acte, elle est ce moment délicat de bascule qui nous oblige à prendre position. Et c'est ici que notre liberté entre en jeu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est grave si je succombe? Comment résister? Et si je me laissais aller pour une fois? C'est une bataille qui se livre en chacun de nous lorsque nous sommes tentés, vous connaissez. Et ce n'est pas juste une simple histoire de résister à un bête morceau de chocolat. Cette liberté semble tout à coup fragile et les tentations s'annoncent subtiles. Nous allons voir comment faire de fragiles tentations devant une subtile liberté. Et nous allons entrer dans le vif du sujet avec les tentations de Jésus dans le désert. Car si lui a été tenté, pourquoi ne le serions-nous pas? Mais pourquoi a-t-il été tenté au fond? Pourquoi n'a-t-il pas été préservé en tant que fils de Dieu? C'est un étrange épisode qui nous est rapporté, puisque Jésus était visiblement seul dans le désert et qu'il n'a rien écrit. On flotte un peu dans le surnaturel, dans ce duel avec le diable. J'aurais tendance à me représenter un combat intérieur que Jésus a dû mener. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus, car ce qui va nous intéresser, c'est évidemment l'attitude de Jésus. Il s'agit d'un moment important dans sa vie, après son baptême, où Dieu le désigne comme son fils bien-aimé, et avant de commencer son ministère. Mais là, est-ce que l'on aura une réplique de la tentation d'Adam et Ève, mais dans une version qui se termine bien ? Si on s'en tient au récit de la Genèse, le couple vivait en communion avec Dieu. Ils ne connaissaient pas autre chose. Adam et Ève n'avaient pas à choisir entre un bien et un mal. C'était une notion inconnue pour eux. Ils étaient en communion avec Dieu, point. Le serpent les a déviés de cette communion en leur proposant un plus. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour eux ? Une communion encore plus proche de Dieu ? Ou qu'ils seraient revêtus de la même puissance ? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça, c'est un détail par rapport à la suite. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Je pense qu'il n'y a que les femmes pour voir des choses pareilles. La tentation, elle est plus forte que l'interdit. Le diviseur réussit à altérer, non pas à rompre, mais à altérer cette communion. Dieu les chasse du jardin, mais il les protège avec des vêtements de peau. Et au chapitre 4, on comprend que la ration n'a pas été coupée, puisque leurs fils Caïn et Abel font leur offrande à Dieu. Jésus, lui, contrairement au premier couple de la Genèse, a connaissance de cette dualité, et il est conscient de ce combat. Les tentations vont le placer devant des choix cruciaux à faire. Les deux situations ne sont donc pas similaires. Prenons cet épisode dans l'évangile de Luc qui est très semblable à celui de Matthieu. Marc, lui, ne le mentionne que très rapidement et Jean n'en parle pas du tout.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire.
Pour les Juifs, quelques précisions, le chiffre 40 signifie un temps assez long. Le désert, c'est le lieu de solitude et de rencontre avec Dieu, mais c'est aussi un lieu ici de rencontre avec la présence des esprits. Et comme dans la Genèse, ici, ce n'est pas Dieu qui tente. C'est l'Esprit qui prend cette initiative. C'est ce même esprit qui habite Jésus et qui l'accompagne, mais qui ne lui épargne pas l'épreuve. Être habité par l'esprit ou être béni de Dieu ne veut pas dire « plus rien ne m'arrivera ». On peut encore se poser cette question. Est-ce que c'était un examen à passer pour Jésus avant son ministère ? Et pourquoi, je reviens sur cette question, pourquoi Dieu l'a-t-il laissé vivre ce combat ? J'ai trouvé une réponse intéressante. C'est bien plus que cela. C'est Dieu lui-même qui va prendre un risque énorme. Car il n'a pas envoyé un petit soldat pour exécuter ses ordres, mais un être totalement libre. On retrouve cette fameuse liberté. Il est possible que ce fils, fait de chair et de sang pour un temps, usurpe la gloire du Père, le renie en s'inclinant devant le tentateur. Vous saisissez l'enjeu ? C'est la mission de Jésus qui risque de capoter. Pour nous, quelle importance cet épisode a-t-il ? Si Jésus n'est pas tenté, s'il ne montre pas le chemin, s'il n'ouvre pas la voie, nous restons sous l'emprise du prince de ce monde, sans défense et sans issue, dans un fatalisme inéluctable. C'est donc un combat décisif avant que Jésus ne se lance dans son ministère, exposé en tant qu'homme aux mêmes tentations que nous, et il doit se positionner comme nous avons à le faire, nous aussi. Voyons ces tentations. La première tentation est une tentation de nécessité. Elle touche le besoin le plus concret et le plus pressant, la faim et la peur d'en mourir. Le diable, je vais garder le même mot que Luc, le diable, toujours bien renseigné, reprend la parole divine reçue au baptême. Si, c'est ce petit « si hein, », si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. En réalité, il le sait déjà, parce qu'il n'aurait jamais lancé cette provocation à un simple homme. Changer la pierre en pain recouvre symboliquement tous nos besoins physiologiques. On le retrouve, ce mot, dans le Notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Adorer Dieu, suivre sa parole, quand on a le ventre plein, c'est assez facile. Mais quand on a le ventre creux, on choisit quoi ? Très naturellement, c'est ce que j'aurais fait, on satisfait d'abord les besoins essentiels et on passe aux choses spirituelles ensuite. Soit, mais si on suit ce raisonnement, ça donne ceci. On ne va pas amener l'évangile à des gens qui ont faim. Ou ça donne cela. Si les besoins primaires de base sont prioritaires par-dessus tout, celui qui a faim, celui qui a un besoin sexuel à satisfaire, a tous les droits, tout lui est permis. Vous voyez où cela peut nous mener. Ésaü, en rentrant de la chasse, avait très faim lui aussi. Pour l'assouvir, il a cédé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, incapable à ce moment de penser aux conséquences possibles. Dans cette même situation extrême, Jésus, regardez, ne répond pas avec ses propres mots. Il s'appuie sur ce qu'il sait, qui peut lui donner la force de résister. C'est une valeur sûre. Il est écrit dans le livre. Et il cite Deutéronome 8,3 de mémoire, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et Matthieu complétera par « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette citation fait référence à la manne du désert, c'est Dieu qui a nourri le peuple d'Israël pendant sa traversée. Pas de pain seulement, ce petit mot apporte une nuance importante. Le pain, oui, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Ce verset que Jésus a repris rejoint ce qu'il va dire plus tard dans son enseignement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses matérielles nécessaires vous seront données en plus. La deuxième tentation, c'est une tentation de puissance. C'est l'attrait de la conquête, de la domination. Heidegger montre bien ce désir de domination exacerbée qui amène à une cruauté aveugle. On en a des exemples criants actuellement. Cette tentation de puissance n'est pas seulement à l'œuvre sur le plan politique ou géographique. Au niveau relationnel, on peut y voir toute forme d'abus de pouvoir que l'on peut exercer sur les autres, que ce soit par l'argent, le statut social, l'autorité personnelle, l'influence spirituelle, le chantage, la manipulation. Et vous savez que les églises ne sont pas épargnées par ces dérives. Prince de ce monde, le diable dispose de cette puissance, encore un mystère. Et cette puissance, il l'attribue aux hommes pour qu'ils s'asservissent mutuellement. Et il y parvient assez bien. Jésus le sait. À ses disciples, il dira: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Et il leur donnera une toute autre direction. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Dans cette tentation, si Jésus se prosterne, c'est là un acte de totale soumission. Et c'est là qu'il pourrait renier son Père. Il s'appuie à nouveau sur l'écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Citant encore Deutéronome 10:20. En renonçant à la puissance, Jésus nous désoriente un peu. Parce que lui, l'autorité qu'il a reçue, qu'en fera-t-il? Il dira: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce sera une autorité de service. Le supérieur se met au service de ses subalternes. Et ça, vous le savez déjà, c'est toujours le monde à l'envers que propose l'Évangile. Regardez encore ces mots dans le texte: puissance, gloire, royaume. Ça vous rappelle quelque chose? Ce sont comme par hasard les attributs de Dieu qui terminent le Notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent. C'est une affirmation qui tient lieu de boussole quand on se perd, qui se fait garde-fou contre tout désir de puissance et qui aide l'homme à rester à sa place de créature devant son Créateur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pas à moi, ni à personne d'autre d'ailleurs, et je n'ai pas à me laisser dominer non plus. C'est facile à dire, c'est moins évident à vivre. Mais c'est faire un véritable acte de foi que de réciter cette prière en toute conscience de ce que l'on dit. La troisième tentation, elle est d'ordre spirituel. Le temple demeure symboliquement la demeure de l'Éternel. On peut facilement comprendre que le diable place Jésus à dessein au-dessus, en position de supériorité, pour ainsi dire, sur le Père. Alors on peut y voir deux choses. On peut y voir la position de tout homme qui veut s'affirmer par lui-même, indépendamment de Dieu. Ça peut être l'attitude de l'intellectuel, de l'érudit, du scientifique, de l'anarchiste, de l'artiste. C'est une attitude assez courante et répandue autour de nous, surtout dans les pays occidentaux, il me semble, où le rationalisme et l'individualisme l'emportent. Et on peut y voir aussi la tentation de s'approprier la parole à son avantage. Regardez comme le tentateur devient subtil ici. Il use de la même référence que Jésus. Il est écrit en reprenant une partie du psaume 91:11-12. Là, il cherche à pousser Jésus à forcer la main de son Père. Une véritable provocation qui s'adresse à Dieu en définitive. Et ouais, tu vois que ton fils est en danger. Réagis selon ce qui est écrit. D'où la réponse de Jésus: tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tiré encore de Deutéronome. Nous avons à l'esprit les pharisiens, bien sûr, pratiquants zélés qui veillaient au respect de la loi, qu'ils ont détourné finement en leur faveur. Méfions-nous, car nous avons tous et toutes quelque chose du pharisien en nous. C'est la liberté prétexte dont parle Paul aux Galates. Mais justement, comment savoir si on n'abuse pas de la parole, si on ne la déforme pas? Comment savoir si on ne l'utilise pas pour se mettre en avant? Je crois que la liberté que nous avons reçue permet aussi d'aborder ces questions à plusieurs, en toute fraternité, si quelque chose ne nous semble pas juste, pas conforme à la parole. De toute évidence, restons constamment vigilants et attentifs les uns les autres. Et souvenons-nous aussi que cette parole, eh bien, elle a traversé les siècles. Elle est solide et résistante. Elle en a vu d'autres. Elle est puissante aussi. Elle peut pénétrer dans les cœurs, même à travers nos maladresses et nos erreurs. Avec Dieu, on peut toujours recommencer. Rien ni personne n'est jamais perdu. Je dirais que sa grâce nous poursuit. Le diable s'éloigna de lui. Victoire, mais de courte durée, jusqu'à un moment favorable. Mince alors. En fait, est-ce que Jésus en a connu d'autres de ces épisodes de tentation, moments favorables à la tentation? Oui, et plus éprouvant encore, ce sera l'assaut suprême du mal. Et on va retrouver, comme par hasard, les trois mêmes types de tentations. Souvenez-vous, peu avant son arrestation, Jésus se retrouve dans une tentation de nécessité, encore plus dure que la faim, l'approche imminente de la mort. Il priera, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Alors qu'il sait qu'il va ressusciter, il l'a dit à ses disciples auparavant. Mais la peur l'étreint, l'angoisse le submerge, tentation de tout lâcher, et ça se comprend. Mais déjà dans la phrase suivante, il trouve la force extraordinaire de dire « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Tentation surmontée. Alors un ange lui apparut dans le ciel pour le fortifier. Petite parenthèse, dans des situations extrêmes que nous pouvons vivre, Dieu peut nous envoyer aussi des signes pour nous encourager, que nous sommes peut-être seuls à percevoir et qui pourraient faire sourire les autres, mais ça ne fait rien. Pour nous, c'était essentiel et c'était au bon moment, et cela nous a fortifiés. Sur la croix encore, une nouvelle provocation, celle des passants, qui le remettent dans une tentation de puissance. Si, à nouveau ceci, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il y a de la moquerie aussi. Il a sauvé les autres, et ne peut se sauver lui-même. Là, Jésus ne dit rien. En se taisant, il fait taire les insultes. Et sur la croix, une nouvelle fois, une tentation spirituelle, celle-là, avec ce cri du cœur lancinant, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui fait écho au psaume de 22:2 de David. Doute, doute de la présence de Dieu. Il a disparu. Un moment terrible à vivre. Et ce silence et la suite des événements semblent confirmer l'abandon. Mais là, je vous pose une question. Est-ce que le Dieu de vie peut-il être présent dans la mort? Voilà, il est temps de faire un mini résumé avant de poursuivre. Dans cette épreuve que Jésus affronte, on découvre dans l'évangile de Luc que Dieu prend le risque d'être renié par son Fils. Dieu ne tente pas, mais nous aide à traverser les tentations. L'Esprit est resté avec Jésus pendant ce temps de tentation. Je cite 1 Corinthiens 10:13, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » On va partout avec ce verset. La tentation n'est pas un péché. Et Jésus s'appuie sur les Écritures et nous montre que c'est le rempart contre la tentation. Cette obéissance que Jésus choisit de garder face à la volonté de son Père, cette obéissance à Dieu, paradoxalement, affirme et préserve la liberté, celle de Jésus et la nôtre par la même occasion. Maintenant que vous avez saisi un peu sur quel terrain se joue la tentation, j'aimerais encore attirer votre attention sur la période particulièrement anxiogène que nous traversons actuellement, avec ses enjeux et ses défis qui semblent s'accumuler les uns sur les autres et qui nous donnent l'impression d'aller vers un monde qui s'effondre. Même des personnes non chrétiennes commencent à parler de temps apocalyptique. Je perçois deux tentations collectives contagieuses. La première, c'est la tentation de sombrer dans la morosité ambiante, devant l'horizon qui se bouche et l'impuissance que l'on ressent, à quoi bon ? Et l'envie de baisser les bras. Une deuxième tentation est celle de céder à la peur. Peur de manquer du nécessaire pour vivre, peur de la guerre qui pourrait s'étendre, peur des catastrophes naturelles, peur d'une migration envahissante, peur de la montée des dictatures, et bien d'autres peurs encore, avec le risque du repli sur soi. Pour les chrétiens, s'ajoute encore la tentation du doute. Combien de fois nous demandons-nous où est Dieu ? Pourquoi ne répond-il pas ? Ou pas tout de suite ? Nous aurions même quelques suggestions à lui souffler dans nos prières. Mais que fait-il ? Est-ce qu'il ne voit pas tout ce qu'on est en train de vivre, toutes nos souffrances, nos angoisses ? Est-ce qu'il dort ? Et s'il dort, qu'il se réveille ? Où est-elle sa grande bonté légendaire ? Qu'il vienne nous secourir, qu'il se lève à la fin. Extrait du psaume 44, 24-27, un peu arrangé, j'en conviens, datant du 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que nous ne sommes pas les premiers à déplorer le silence de Dieu quand le monde se fait hostile autour de nous. La tentation du doute revient régulièrement dans nos moments critiques. Est-ce qu'on ne serait pas tout seul finalement sur cette terre, livré à nous-mêmes, perdus, essayant de nous accrocher à un Dieu pour donner un sens à notre condition humaine ? J'aime beaucoup cette petite phrase de Maurice Bellet, un prêtre catholique théologien, qui s'est aussi posé cette question. Dieu existe-t-il ? C'est une question d'homme. Dieu ne se la pose jamais. Dans cette ambiance décourageante, je pense que c'est le moment propice pour nous souvenir de la résurrection de Jésus, où le mal et la mort n'ont pas eu le mot de la fin. Nous souvenir que les apparences ne sont pas la réalité dernière. Nous souvenir des paroles de Jésus à ses disciples. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, dit Jésus. Tenez ferme, dit Paul, pratiquement. Cela nous demande de tenir le coup, quoi qu'il arrive. À nous de nous prémunir en nous fabriquant chacun ce que j'appellerais son kit de résistance. Lire et relire la parole, fondatrice et fortifiante. Dans les Éphésiens, on trouve « Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu ». C'est un véritable langage guerrier. Et je n'ai pas pris la suite de l'armure du croyant. Sélectionnez les versets qui vous raffermissent, qui vous encouragent, vous les gardez sous la main, vous les méditez, puis vous les renouvelez pour qu'ils ne fassent pas partie de vos meubles. Lire la parole, la relire, priez régulièrement. Avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples, « Mais pourquoi dormez-vous ? Levez-vous ! » et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et se recentrer sur l'espérance. L'espérance, elle est essentielle pour nous aider à voir plus loin, pour nous tirer en avant. Je vous relis ce verset percutant qu'il a défini si bien dans Hébreux 6, 19, 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Lire la parole, prier régulièrement, se recentrer sur l'espérance, il ne nous reste plus qu'à rayonner. Dans ces temps compliqués, comme on a pris l'habitude de dire, à nous, porteurs d'espérance, d'entrer en action. Sans chercher à devenir des phares éclatants autour de nous, soyons déjà une petite étincelle de vie et de joie pour ceux et celles que nous côtoyons. C'est là qu'interviennent et notre liberté et notre préoccupation du prochain. Oser des élans de cœur, des gestes inattendus de générosité, d'amitié, de consolation, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez. Car, dit Paul, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen.